Voilà, bonjour et merci d'être encore fidèle à l'écoute de Radio Maria. Surtout bienvenue à cette émission Entrepreneuriat pratique, l'élevage de porcs, une opportunité rentable pour entreprendre avec peu de moyens. Vous souhaitez donc vous lancer dans l'élevage, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous souhaitez bâtir une véritable activité entrepreneurial dans ce secteur. L'élevage porcin peut devenir donc une entreprise rentable et durable lorsqu'il est conduit de manière professionnelle. Cette émission vous montre comment entreprendre sérieusement, et le mot est lâché, dans l'élevage de porcins. Au programme, nous aurons donc à apprendre sur les infrastructures de base nécessaires pour démarrer cet élevage de porcins. Il y aura les choix stratégiques des races et des géniteurs. L'alimentation adaptée pour une croissance optimale n'est pas en reste. Nous allons parler aussi de la prophylaxie, le mot me paraît un peu nouveau, et les bonnes pratiques sanitaires essentielles pour la réussite d'un élevage. Et notre invité ce matin, c'est l'ingénieur agronome Massoudi Biemba Chris. Il est conduit par les coachs mentors internationaux, c'est le cas de le dire. Bonjour, coach Gabriel.
Bonjour, frère Maxime.
J'allais dire bon félicitations.
Retour. Merci beaucoup.
C'est pour cette reconnaissance. Parlez-nous un peu de cela. Quand j'ai vu ça dans le groupe, je fais « waouh ».
C'est le département d'État, parce que je suis aussi coach et mentor au Centre culturel américain.
Oui.
Donc, j'ai fait 2 semaines aux États-Unis. J'ai accompagné les jeunes où il y a eu des formations, des masterclass en entrepreneuriat et en leadership. Et c'est à l'issue de ça, on s'est bien comporté et on nous a octroyé un certificat international pour reconnaître qu'on est senior coach et on peut coacher sur le plan international. C'est un honneur pour la RDC, c'est un honneur pour l'Église, ce que nous faisons pour servir un peu notre communauté. Et c'est une joie.
C'est une joie pour
d'être reconnu sur le plan international que la Radio Maria a un expert en entrepreneuriat qui est reconnu sur le plan international. Donc, ça fait du bien et ça va nous aider. Ça nous donne cette motivation de continuer toujours à travailler pour que le peuple de Dieu, la population congolaise puisse bénéficier de notre expertise.
Voilà, bénéficier de votre expertise. Voilà qui justifie donc la présence de notre invité. On va parler de l'élevage des porcins. Pourquoi les choix d'abord? Est-ce que c'est parce qu'on est en période de fête ou vous voulez que les gens puissent acheter ces...
Oui, un peu oui de et non. Hein, fêter, oui et quoi. Non. Et aussi, j'ai cherché, parce que l'émission devait se faire il y a longtemps, mais j'ai cherché un ingénieur qui est aussi entrepreneur dans le secteur. Parce que les ingénieurs que j'ai trouvés, il a fait l'Unikin, il a fait, mais il a des théories, mais sur le plan pratique, il ne le fait pas. Et lui, l'ingénieur Chris m'a envoyé même des photos. J'allais même partir chez lui, mais l'emploi du temps.
Alors lui, il est venu.
Est venu et avec son expertise. Donc, on a voulu vraiment quelqu'un qui fait ça. Parce qu'en RDC, nous avons beaucoup de gens qui font l'élevage des porcs. Peut-être qu'ils ne le font pas d'une manière professionnelle. Maintenant, on a un professionnel, un expert au plateau qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, mais avec peu de moyens. Parce que notre politique ici, c'est est-ce qu'on ne peut pas entreprendre avec peu de moyens?
Voilà donc, notre invité, c'est l'ingénieur agronome Massoudi Biemba Chris. Voilà comme le Jésus-Christ que nous attendons. Il est tout jeune, spécialiste en production animale et diplômé de l'université de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, et surtout bienvenue sur les zones mariales. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire de vous?
Merci beaucoup. Bon, vous avez presque tout dit par rapport à mon parcours étudiantin. Et je suis agronome tel que vous venez de le dire.
À zéro comme les autres.
Hein. Oui, à zéro comme les autres.
Toujours à zéro.
Oui, à zéro comme les autres et pratiquant dans les secteurs porcins.
Voilà, le secteur porcin. Alors, le terme nous dit entreprendre avec peu de moyens. Alors, on va écouter votre expérience avec le programme que nous a filé le coach Gabriel. On commence d'abord par les infrastructures, des bases, avant peut-être de parler de vous. Alors, pour quelqu'un qui veut entreprendre dans ce domaine de l'élevage, il commence par quoi en termes d'infrastructures?
Très important.
On peut commencer par là, très important. Oui, Quelles sont les infrastructures qui idoines pour débuter cet élevage?
Bon, d'abord, il faudra préparer un endroit où doit vivre le porc, d'abord, premièrement. Il y a des différentes sortes d'infrastructures que nous pouvons bien aménager, selon les qualités, selon les prix. Comme nous voulons bien avoir ou investir dans l'élevage porcin à un coût un peu plus réduit, que possible, nous avons des infrastructures rudimentaires ou traditionnelles que nous pouvons utiliser les plus facilement possible, que nous pouvons trouver peut-être dans la forêt, les arbres ou les arbustes, pour ainsi créer les porcheries en caillebotis.
En caillebotis, c'est-à-dire quoi?
Les infrastructures en caillebotis consistent à construire des porcheries à l'aide des branches d'arbres, mais qui sont suspendues. C'est ce qu'on appelle les infrastructures en caillebotis. Donc là, si nous les faisons, bon, traditionnellement, nos parents, nos arrière-grands-parents les faisaient déjà. Et maintenant, nous, en agronomie, nous avons essayé un peu d'améliorer et ils les faisaient à même le sol. Mais nous avons constaté qu'en faisant ces infrastructures-là à même le sol, nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies concernant les porcs par rapport au sol. Et nous avons fait des études, nous avons voulu un peu surélever les habitats de porcs pour pouvoir contrôler l'air d'éjection, pouvoir contrôler la manière dont ils mangent, parce que si on les met à même le sol, il peut y avoir de... Donc, l'air nourriture ou l'endroit où on met la nourriture peut se mélanger avec les déjections et facilement ça peut créer des maladies. C'est un peu ça.
Voilà, mais parce qu'on parle de peu de moyens, combien on peut disposer pour s'étaper
le matériel-là.
Bon, combien on peut disposer pour s'étaper ces matériels-là? Facilement, au moins $300, nous pouvons faire. Nous pouvons construire une infrastructure qui peut abriter environ 50 porcs.
50 porcs?
Oui, 50 porcs.
Une porcherie de 50 porcs. Une porcherie de 50 porcs. Avec $300, on peut déjà construire.
Ça, c'est l'espace tout court.
Ça, c'est l'espace.
Oui. Bon, non, pas. Ça, c'est le matériel pour construire, pas l'espace.
Le matériel.
Oui, le matériel pour construire cet édifice-là, pouvant contenir 50 porcs.
Ah. Voilà, on va continuer.
Coach, oui. Comment mesurer en termes d'espace ou la densité, je ne sais pas comment vous appelez dans un langage technique.
Oui, la superficie.
Ou la superficie. Il faut combien de porcs dans un espace déterminé? Bon. Parce que vous avez parlé de 50 d'une manière générale.
Oui, j'ai parlé de 50 d'une manière générale. Et d'une manière particulière, nous déterminons la vie d'un porc dans une loge par mètre carré.
Dans une loge. Et une loge peut contenir combien de porcs?
Ça dépend de l'âge maintenant.
Ah, très bien.
Oui, ça dépend de l'âge de porc et de leur kilo.
Allez, expliquez-nous.
Oui. Donc, par rapport à ça, nous déterminons la superficie de vie d'un porc ou de porc scellé par rapport au mètre carré. Oui. Donc, la superficie de vie d'un porc, normalement, d'une manière générale, dans des normes internationales et des 2 mètres carrés par porc. Donc, dans une loge de 2 mètres carrés, nous pouvons avoir un porc.
Deux mètres carrés.
Oui, un porc peut occuper 2 mètres carrés. Mais maintenant, là, nous ne les calculons plus en mètres carrés vu qu'il y a aussi la hauteur. On commence à les calculer par mètres cubes. Donc, avant, on ne déterminait pas la hauteur d'une loge. Mais actuellement, là, avec le perfectionnement de la technologie, on a vite compris que non. Il y a aussi la hauteur qui compte.
Et une loge peut contenir combien de... Vous avez appelé ça porcelé, hein? Porcelé, ce sont des...
Oui, ce sont des petits... ce sont des bébés de porc.
Des bébés de porc, on appelle ça porcelé. Ouais. Alors, une loge peut avoir combien de porcelés?
Bon.
En termes de mètres cubes, de calcul que vous avez fait là.
Bon, généralement, quand on détermine le 2 mètres carrés ou les 2 mètres cubes par loge pour un porc, on les détermine à l'avenir, par projection. Parce que nous ne pouvons pas construire une loge qui pouvant abriter les porcelets. Après une certaine période, quand les porcelets vont grandir, chercher encore à changer de loge pour aller les mettre dans des loges qui seront adaptées à leur âge ou à leur poids. Voilà pourquoi est-ce que nous prenons le minimum de cette superficie des 2 mètres carrés. Donc on met un porcelet des 2 mètres carrés jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge adulte. Et du coup, dans les infrastructures, il y a des subdivisions, des catégories de loges. Il y a des loges des natalités où la maman est encore gestante jusqu'à ce qu'il va mettre bas ses petits, jusqu'à l'allaitement et puis au sévrage. Après les sévrages, il y a des loges d'engraissement. Les loges d'engraissement sont des loges où on met de porcelets déjà à l'âge des sévrages pour leur donner l'alimentation adéquate pour grandir maintenant en termes de poids et en termes de maturité sexuelle.
Ça, c'est très intéressant. En termes de poids et en termes de maturité. Là, maintenant, vous parlez des aliments. Quand nous parlons des aliments, nous voyons la matière première. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour alimenter? Il faut commencer par quoi? Ça coûte combien?
Peut-être en termes d'aliments, on va arriver un peu plus tard parce qu'on va parler d'alimentation. Ça, c'était juste... Alors, c'était juste au niveau des infrastructures. En ce sens.
Très bien.
Peut-être prendre les choix stratégiques des races et des géniteurs.
Très bien.
Parce qu'on a parlé des porcs, on a parlé des truies, c'est-à-dire les féminins des porcs. Oui. Alors, comment vous opérez votre choix stratégique pour la race? Quelle est la race qui peut donner beaucoup de porcelets?
Est-ce qu'on les trouve ici sur place? Est-ce que ça vient de l'étranger? Comment est-ce qu'on fait?
Bon, généralement, le choix stratégique des géniteurs et puis de races adéquates pour élever, par exemple, tout cela est caractérisé par les conditions du milieu.
Oui.
Donc, les conditions, nous devons choisir des races ou des géniteurs adaptés à notre condition climatique.
Oui.
Ou à d'autres conditions du milieu. Par exemple, vous, si on vous amène au pôle Nord, vous aurez du mal à vous adapter facilement.
Oui.
Par exemple, vous, si on vous amène au pôle Nord, vous aurez du mal à vous adapter. Peut-être que si à Kinshasa, vous pouvez donner naissance à 10 petits, au pôle Nord, vous n'aurez pas cette capacité-là. Vous pouvez peut-être donner 2 ou 3 petits. Et la fragilité, d'une manière générale, en termes de santé physique.
Alors, allons dans le concret parce qu'on nous suit sur toute l'étendue de la RD Congo.
Et ça, c'était une
petite... Oui, tout à fait. On a ici deux saisons.
Oui.
La saison sèche et la saison de pluie, selon qu'on est à Kinshasa ou à Goma.
Oui,
très bien.
Alors, quelle est la race que vous recommandez et les géniteurs que vous recommandez à ceux qui veulent se lancer dans cette...
Bon, la race que je recommande actuellement ici en RDC par rapport à l'expérience est une race hybride. Une race hybride qui est le croisement du roc et puis d'un large white. Pourquoi ces croisements-là? Les large white donnent beaucoup de petits. Et en termes de poids, les large white a plus de poids par rapport aux duroc. Les large white et les duroc sont des races exotiques venant de la Belgique qui ont été introduites aux alentours du 19e siècle par le colon. Et nous avons choisi cette race-là ou bien ces mélanges-là par rapport au gain de poids du large white et au nombre des petits par mise bas. Et au duroc, c'est par rapport à sa résistance au niveau de maladies qu'on trouve ici, les maladies endémiques qu'on trouve en RDC ou en Afrique. Donc sa résistance aux maladies, c'est un peu ça.
Voilà, c'est un peu cela. Est-ce que cette race hybride dont vous avez fait mention, on peut le trouver facilement sur toute l'étendue du Congo?
Oui. Cette race hybride, on peut le trouver sur toute l'étendue du Congo. C'est facilement trouvable au Congo.
Voilà, coach Gabriel, une autre question. Peut-être qu'on arrive à l'alimentation adaptée pour la croissance.
Mais
optimale,
même avant l'alimentation, ça coûte combien? C'est porcelet, hein? Vous avez parlé de porcelet du roc et large white.
Donc, c'est le croisement entre duroc et large white.
Alors, sur le marché, vous avez déjà trouvé des porcs qui sont...
Il y a des gens qui vendent ça facilement.
Oui, il y a des gens qui vendent ça facilement.
Oh.
Bon, le trait morphologique de cette race-là, hybride-là, vous allez trouver que non. La race a des taches, il est rouge et puis tacheté noir. C'est comme ça le trait morphologique qu'on peut trouver.
Ça peut coûter combien?
Bon, généralement, les prix varient entre 80$ et 120$, selon la personne qui les vend.
Selon la personne qui les vend. Et ce n'est pas aussi par rapport au poids, par rapport à...
Bon, le porcelet, ne se vend pas en termes de poids. C'est peut-être le porc engraissé qui se vend en termes de poids, en termes de poids vif.
Alors, parce que vous parlez de porcelets, est-ce que pour un début, il faut directement commencer avec les porcelets ou bien on peut avoir aussi les porcs ou la truie qui sont déjà à même de mettre bas et vous vous lancez aussi dans l'affaire?
Oui, bien sûr. Au lieu de commencer avec le porcelet, vous pouvez directement commencer avec une truie gestante, par exemple.
Gestante, oui.
Oui, mais le coût sera un peu plus élevé
par
rapport au coût de l'achat d'un porcelet.
Qui est à 80. Mais là, ça coûte plus. Hein.
Oui, là, ça peut coûter plus.
Oui, mais ce que vous aurez peut-être à gagner au niveau de la truie qui veut mettre bas, vous aurez peut-être à perdre ça parce que là, il faut maintenant aussi élever les porcelets.
Il faut alimenter.
Il faut alimenter jusqu'à ce qu'ils puissent être à même de mettre bas.
Oui, bon, vu que nous sommes dans une émission où on parle de l'entrepreneuriat, on voit le coût.
Oui.
Et quand on prend les ports scellés, le coût est un peu plus réduit par rapport aux truies gestantes déjà. Parce que la personne qui va chercher à vendre une truie gestante, il va d'abord calculer le coût de la croissance. Après le coût de la croissance, il va mettre aussi son coût à lui. Quelles sont les dépenses qu'il a engagées?
Les charges.
Les charges.
Très bien.
Oui, quelles sont les charges qu'il a engagées pour atteindre les niveaux...
Pour avoir les prix de vente.
Pour avoir les prix de vente. Et quand on fait ces différents calculs, vous allez constater que non. La truie gestante que vous voulez acquérir dans votre porcherie va un peu coûter plus cher que le porcelet que vous allez avoir au plus bas âge.
Donc, vous conseillez aux entrepreneurs de commencer avec les porcelets.
Oui,
ça, c'est les conseils que vous donnez en tant qu'expert.
Oui, ça, c'est les conseils que je conseille aux gens qui veulent entreprendre dans la porcherie, de commencer avec le porcelet. Mais ceux-là aussi qui veulent directement avoir des bénéfices, ils peuvent aussi prendre le truie gestante et puis commencer.
Le truie gestante, très bien.
Voilà, nous poursuivons donc, chers auditeurs, nous sommes en direct dans cette émission Entrepreneuriat pratique. Nous parlons de l'élevage des poxins, une opportunité rentable pour entreprendre avec peu de moyens. Et on a parlé des infrastructures de base nécessaires pour démarrer, les choix stratégiques des races et des géniteurs. On a dit qu'il faut une race qui est hybride. Alors, l'alimentation adaptée pour une croissance optimale, c'est quoi l'alimentation pour ces porcelets? Parce que vous avez plus recommandé qu'on puisse avoir des
porcelets.
Bon, généralement, par rapport à l'alimentation adaptée, beaucoup de ces gens-là, qui sont dans cette activité ou qui veulent se lancer dans l'activité, ils utilisent seulement le produit provente. Les restes de produits vivrières, tels que le maïs ou le cossait de manioc, généralement, là, sont des aliments énergétiques. Ça ne donne pas vraiment une bonne qualité de viande. Et quand les gens
diversifier.
Oui, il faut diversifier
les aliments.
Il faut diversifier les aliments. Vu que le porc, c'est un monogastrite, c'est un animal qui a les systèmes digestifs comme les hommes. Il peut y avoir une partie des aliments énergétiques comme les céréales, d'une partie les aliments en base de fibres. Les aliments en base de fibres comme les matembele par exemple. L'indunda, ça c'est pour optimiser la croissance de nos porcs et avoir une bonne qualité de viande. Ça c'est par rapport à l'expérience que j'ai eu à faire.
Donc, il faut avoir deux types d'aliments, si je vous ai bien compris. Il y a l'aliment énergétique et l'aliment à base de fibres. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, il y en a d'autres.
Si vous pouvez nous citer les types d'aliments pour voir comment est-ce que... Parce que vous nous citez tous les différents types d'aliments qu'un porc ou un porcelet peut consommer.
Bon, on peut aller en termes simples. Il y a les aliments énergétiques comme le maïs. Il y a les aliments en base de fibres et puis les aliments protéiques. Les aliments protéiques comme le soja. Donc, les aliments qui ont beaucoup de protéines.
Donc, il faut tenir compte de tout ça.
Oui, il faut tenir compte de tout ça pour avoir un bon rendement.
Et vous avez dit l'erreur que vous constatez souvent aux gens qui élèvent les porcs sans formation, sans conseil d'un technicien. Ils donnent beaucoup les aliments énergétiques. Ils vont ramasser ça. Vous allez dans un coin ou des moulins, vous avez dans un coin, vous ramassez les choses, vous amenez.
Oui, c'est ce qu'ils font généralement, sans pour autant traiter ces aliments.
Il faut aussi traiter
ça. Oui, il faut aussi les traiter.
Très bien.
Oui.
Et comment faire ça?
Il y a plusieurs méthodes telles que le tamisage, par exemple. Parce que nous partons dans un moulin, nous recueillons le reste, par exemple, de farine de manioc ou bien les farines de maïs. Il y a aussi des sables à l'intérieur, des petits débris de sable. Bien sûr que le porc peut manger du sable en une petite quantité. Par rapport à son système immunitaire, vu que les sables contiennent aussi des petites quantités de sel, qui est très important pour le porc. À part cela, nous devons aussi apporter du sel au porc pour sa bonne croissance.
Très bien. Et en termes de quantité, il y a maintenant, vous avez parlé de trois types d'aliments. Maintenant, en termes de quantité, les porcelets mangent. Parce qu'en entrepreneuriat, ça se calcule, non?
Oui, ça se calcule.
Il faut calculer pour, dans votre plan d'affaires, il faut calculer les coûts.
Oui. L'écoute, c'est important, oui, parce que
oui.
Par jour, c'est combien de grammes ou parler même de tonnes, parce que
ça arrive aux tonnes quand c'est à une période bien étendue.
Ah bon?
Oui.
Et il y a une période où les porcs mangent trop ou mangent beaucoup ou comment?
Oui, il y a une période où les porcs mangent beaucoup.
Ouais.
Par exemple, pendant la saison sèche, il fait froid. Même nous, les hommes, pendant la saison sèche, nous avons besoin de produire de la chaleur. Et en voulant produire de la chaleur, il faut manger pour brûler les calories et puis en produire.
Ah, très bien.
Donc, c'est un peu ça.
Voilà. Alors, on va passer rapidement parce que le temps tourne vite au quatrième point de notre programme. On va parler de la prophylaxie, hein, donc des mesures préventives contre les malarias et plutôt les maladies, qu'est-ce que j'ai dit, les bonnes pratiques sanitaires essentielles pour réussir donc un élevage. Là, on fait appel à ceux qui aux soins de votre porc. Comment vous y prenez?
Oui. Quand on parle de la prophylaxie, on voit directement les mesures préventives ou les mesures curatives pour prévenir le maladie d'abord, premièrement. Pour avoir la rentabilité dans votre élevage, il faut prévenir toutes sortes de maladies. Par exemple, la PPC, la peste porcine africaine, qui décime pratiquement...
Ce sont des maladies qui déciment les porcs.
Qui déciment les porcs. Si ça entre dans votre élevage,
c'est fini.
Au bout de deux ou trois jours...
Et qu'est-ce qui cause ça?
Bon, la peste porcine africaine, c'est une virus qui a été créé naturellement et qui attaque le porc.
Créé naturellement pour attaquer le porc.
Bon, cette virus-là a trouvé... C'est facile d'entrer chez les porcs et puis d'avoir ces nutriments chez les porcs.
Alors, comment se prévenir de ces virus-là?
Bon, la prévention de ces virus-là, généralement, on donne des vaccins parce qu'il n'y a pas de médicaments directement. Il y a des vaccins qu'on donne.
Les vaccins existent ici et on achète ça.
Oui, on achète le vaccin. Donc, on vaccine nos porcs pour les immuniser contre cette maladie-là. Il y a la peste porcine africaine et la peste porcine classique.
Et quand un porc scellé ou un porc est attaqué par cette maladie-là, comment découvrir ça facilement?
Bon, vous allez constater qu'il y aura... le porc d'abord va... sa température corporelle va augmenter. Il va commencer à refuser de manger pendant une ou deux jours. Et puis après, il y aura des saignements au niveau de l'anus. Donc, des écoulements sanguins. Et quand vous constatez cela, il faut automatiquement ou directement écarter ces porcs-là.
Écarter
les porcs et puis chercher à désinfecter les milieux. Donc, les séparer des autres porcs automatiquement.
Raison pour laquelle on dit, quand vous élevez, vous devez être accompagné par un ingénieur agronome, n'est-ce pas? Ou un vétérinaire.
Oui, c'est nécessaire d'être accompagné par un vétérinaire ou un ingénieur agronome pour pouvoir faire l'anamnèse ou les observations adéquates dans votre porcherie en vue de détecter des différentes maladies qui peuvent arriver.
Très intéressant.
Très intéressant, voilà. Donc on va peut-être libérer la parole pour la donner auprès des auditeurs. Mais avant d'y arriver, une question. On a trop parlé de l'élevage dans un enclos. Mais si vous allez dans les villages, vous verrez des porcs qui sont en divagation. On peut aussi appeler ça élevage.
Bien sûr.
C'est quelqu'un qui fait cet élevage-là avec des porcs qui sont en divagation. Est-ce qu'il prend la mesure de la chose, de tout ce que vous venez de développer là?
Non. Bien sûr qu'il y a cette sorte d'élevage aussi, qu'on appelle l'élevage en plein air.
Oui.
La plupart de ces gens-là, la plupart de nos mamans ou de nos papas au village ne prennent pas en compte ça.
Oui. Alors, quel est le conseil, vous, en termes de maladies?
Bon, avec cet élevage-là, le porc, quand il est en divagation, il va développer des systèmes immunitaires contre ces différentes maladies ou ces différents microbes.
Oui.
Vous allez constater que les porcs en divagation ne tombent pas vraiment malade, il tombe rarement malade. Mais il y a un inconvénient en termes de consommation de ces viandes-là.
Oui.
Quand le porc va s'immuniser, il peut contracter des maladies qu'on appelle le zoonose. Les zoonoses sont des maladies qui peuvent se transmettre du porc à l'homme.
Oui, on parle parfois de ténia aussi.
Oui, on parle parfois de ténia.
Oui, mais la viande de porc...
La viande de ténia, oui. Comme par exemple, les ténia. Les ténia peuvent se transformer de l'homme et de l'animal à l'homme.
De l'animal à l'homme.
Oui. Aussi la tuberculose que l'animal peut contracter facilement.
Oui.
Et vous mangez cette viande de porc, vous allez avoir la tuberculose facilement.
Donc pour tuer, vous êtes entrepreneur, pour tuer un porc pour vendre. Il faut tenir compte de ces éléments-là. Il faut être à côté d'un expert.
Oui, il faut faire des analyses, il faut faire des études.
Ce que nous voyons, par exemple, on est en période de fête, il y a des gens qui viennent avec les porcs dans un coin,
dans une boucherie,
ils vendent ça facilement aux gens.
Bon, le problème aussi...
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle ça? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Et nous, on achète.
Le problème aussi, c'est... Bon. On fait intervenir le gouvernement dans toutes les choses possibles. Nous n'avons pas des abattoirs professionnels qui peuvent faire ces analyses-là.
Dans des abattoirs, avant d'abattre, il faut des analyses.
Oui.
On n'abat pas n'importe comment.
Oui, on fait d'abord les analyses physiques et puis après l'abattage, on fait aussi des analyses.
Peut-être la viande avant, peut être variée.
Avant de mettre la viande au service de la population.
Très bien.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a suffisamment fait le tour de la question, mais les questions donc sont toujours en train de tarauder dans vos têtes, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de l'élevage des porcs. C'est une opportunité entrepreneuriale avec peu de moyens. Mmh. On peut donc voler dans ces domaines. 081-99-66-098.
Et le peu de moyens dont vous venez de parler, frère Maxime,
oui,
donnez-nous maintenant d'une manière générale. Vous avez parlé l'espace pour construire les loges là, il faut $300. Maintenant, d'une manière générale, un jeune qui n'a pas assez de moyens, il peut se mutualiser avec les amis.
Oui, mais déjà maintenant, quand vous bombardez $300 pour...
Non, maintenant, en termes, d'une manière générale, logements,
il faut combien
en additionnant ces 300 là, avec le porcelet qu'il faut acheter, il faut les aliments, il faut acheter combien? Deux, il faut commencer avec deux, hein.
Oui, généralement, il faut commencer avec deux porcelets.
Un porc et une truite.
Un porc bas, mais
bon, combien, oui, mais bas, oui.
Mais bas, combien de porcelets?
C'est bon, il y a la mise bas est généralement par progression. La truite peut commencer par 4 porcelets pour une première mise bas.
4,
6. Au fur et à mesure qu'elle met bas, le nombre augmente. Elle peut atteindre facilement 12 ou 14 mises bas.
Donc, après combien de mois
12 ou 14 porcelets par mise bas.
Et cela se fait après combien de temps?
S'il met bas 4, par exemple, quel est l'intervalle qui s'impose?
Pour attendre encore une autre mise bas.
Il faut attendre environ 5 ou 6 mois.
5 à 6 mois
pour qu'elle soit encore gestante.
Donc, 5 à 6 mois.
Quand elle est gestante, on attend 4 mois, elle met bas. Vous attendez encore 5 à 6 mois, elle va être gestante. Donc, environ... 9 mois après.
En termes de coûts, un jeune qui veut commencer, parce que vous le faites déjà.
Oui.
J'ai vu des photos, vous le faites.
Parlez de vous, vous avez commencé avec combien si c'est...
Bon, moi j'ai commencé avec deux porcelets.
Deux porcelets.
Femelles, pas de mâles. Après,
les mâles, vous les avez eu.
Après 7 mois, bon, nous avons fait des coopérations. En fait, il y a des coopératives. Il peut y avoir un éleveur qui a un mâle. Moi, j'ai des femelles.
Vous allez louer?
Oui, j'ai pas. Ou bien, je ne pars pas louer. On fait de coopératives.
Vous les laissez pendant quelques jours.
Bon, je prends son mâle, il féconde mes femelles. Après la mise.
Vous payez, hein?
Non, bon, moi, généralement, je ne paye pas. Après la mise bas, je lui remets soit deux porcelets par rapport.
C'est ça les paiements.
On peut aussi payer en termes d'argent comptant comme ça.
On peut commencer avec deux porcelets. Ça coûte combien d'une manière générale? Les aliments, les loges et les porcelets. Ça peut coûter combien en termes d'une manière? Les coûts.
Bon, les aliments, les loges et les porcelets, on peut avoisiner dans le $800 pour un début.
$800 pour un début. Et les conseils que je donne aux jeunes dans nos paroisses, à travers le pays, $800, ça paraît beaucoup, n'est-ce pas?
Quand
on regarde les téléphones que les jeunes achètent aujourd'hui,
on peut
de 1400.
Vendre 3 téléphones pour faire
oui,
des affaires.
Vous les voyez avec des téléphones de 1400, de $500, mais ils peuvent s'associer entre amis. Dit bon, voilà, nous allons commencer l'élevage.
Ils ont des porcs entre leurs mains.
Oui, et vous préférez acheter des téléphones. Vous préférez acheter les. Il n'y a pas que des téléphones, il y a les cabellos. Vous préférez, avec les fêtes aujourd'hui, les jeunes filles veulent s'habiller pour prendre des photos et publier ça sur TikTok. On ne dit pas qu'il ne faut pas être beau ou belle, mais il faut avoir des priorités dans la vie.
Voilà.
Et l'entrepreneuriat nous aide aussi à avoir la priorité.
Très bien. Merci beaucoup, coach mentor international. On va donner aussi la parole parole aux auditeurs parce que le temps tourne vite. Est-ce qu'on peut respirer avec l'aide de Gina Lusonso? Je rappelle les numéros de contact 081 99 66 098. Élevage de porc, nous en parlons et c'est dans entrepreneuriat pratique. L'ingénieur Chris est avec nous. Il nous a donné suffisamment de la matière et nous attendons vos questions. De retour dans ce studio, Emmanuel Ferrario, pour lire vos préoccupations. Cici à Nantes, c'est au 081 99 66 098, entrepreneuriat pratique. Sur la table de l'émission, élevage de porcs ou opportunité donc rentable pour un entrepreneur avec peu de moyens, mais je me rends compte que c'est pas aussi peu de moyens que ça.
Bon, peut-être en semi-toilisant, hein, oui, en semi-toilisant, parce que nous sommes à 5, à 4, même à 8, on peut faire. C'est-à-dire, il faut aussi avoir les techniques d'épargne. C'est pas parce qu'il y a assez de... En tant que jeune, on a quand même 10 dollars, peut-être par mois, on peut épargner. Oui. Hein, on épargne.
Voilà. Allez, on va lire les quelques questions des auditeurs. Joignez-nous au 081 99 66 098. On écoute Geoff de Paris.
Bonjour Maxime. Bonjour cher coach. Merci beaucoup pour cette très belle émission. Bon, outre tous les soins qu'il faut entourer le porc ou le porcin, c'est bien beau tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a de ces éleveurs-là qui tombent dans les émotions, c'est-à-dire qu'à force de s'habituer au porc, on se rend compte que on ne peut plus égorger ça lorsqu'on a du mal à les égorger, parce que ça devient comme vos animaux de compagnie, hein? Et donc ils deviennent comme vos amis, surtout lorsque vous les avez déjà surnommés, hein? Lorsque vous les appelez par leur nom, leur surnom, ils viennent vers vous, vous leur distribuez de la nourriture. Et parfois, vous leur parlez et ils comprennent. Et c'est là que ça devient problématique lorsque vous vous habituez tellement à eux, vous êtes attaché tellement à ces animaux-là. Et donc, vous avez du mal et à les vendre et à les égorger. Quid de cette problématique? Merci beaucoup. C'est Joseph Desmarais.
Allez. Coach et plutôt les chers entrepreneurs et Chris. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de tomber un peu dans cet état des choses?
Bien sûr que oui. Vu que je suis agronome, bon, d'abord, premièrement, par une petite expérience, j'ai fait l'agronomie parce que j'aime bien les animaux, j'aime bien vivre avec les animaux. Mais avec ce que nous faisons comme élevage, le but est d'élever et puis de manger. Oui. Donc,
vendre et manger
et avoir des bénéfices.
Est-ce qu'il vous est arrivé de donner à votre truie un nom, par exemple, Maman Thérèse, par exemple? Oui.
Bon, il m'est arrivé déjà à donner un nom à un verra qui s'appelait Goldberg. Donc, les verras, généralement, ils durent pendant longtemps. Ils peuvent faire 5 ans, 6 ans, vous les gardez. Mais le truite et puis les porcs d'engraissement, là,
C'est là la question, le fait que vous l'appelez Goldberg, il devient comme votre ami, les jours il faut peut-être l'égorger, vous dites « Ah, c'est un ami », tout ça.
Non.
C'est ça la question des jeunes.
Après un temps, tout le monde a une durée de vie quand même. Goldberg aussi avait sa durée de vie. Et du coup, quand la durée de vie atteint son maximum, donc on doit l'égorger quand même.
Est-ce qu'un porc, on égorge, on tue, parce qu'il a atteint le niveau de vie ou le poids pour vendre et consommer. Bon, à quel niveau on peut dire, je veux maintenant vendre, je veux maintenant tuer. À quel niveau? Quel est le poids ou quel est l'âge?
Là, je parle en termes de, en termes des sentiments de notre confrère qui vient d'évoquer le problème sentimental, où on peut donner le nom à un porc. Vu que nous avons maintenant des sentiments affectifs envers cet animal-là, là, nous allons attendre à ce qu'il puisse atteindre son niveau de vie pour l'abattre. Pour ne plus avoir trop mal. C'est par rapport à sa question que j'ai répondu.
Mais pour les affaires,
quand on atteint déjà environ 50 kilos ou 60 kilos, vous pouvez déjà abattre pour vendre.
50 à 60 kilos.
Alors, on va écouter encore une autre note vocale.
Bonjour Maxime, bonjour coach et bonjour l'ingénieur. J'ai suivi l'exposer avec beaucoup d'attention. Je voudrais plutôt apporter quelque chose de plus. Moi, je suis un pratiquant. J'ai pratiqué l'élevage de porc pendant près de 10 ans. La première des choses, il faut bien se renseigner. Je suis allé à CEPAS, j'ai acheté, il y a une littérature qu'on peut trouver sur l'élevage des porcs. J'ai visité beaucoup de fermes porcines, dont la ferme de Lissava à Kimwenza. J'ai pris conseil et j'ai acquis une propriété. Ma chance était que quelqu'un avait déjà construit. Bon, c'est une autre dimension. La porcherie peut héberger 800 têtes. J'ai démarré avec 15 femelles et 2 mâles. À ce niveau-là, le ministère de l'Agriculture réglemente, parce que le porc, tout comme nous les humains, est très vulnérable par rapport à la consanguinité. Donc il faut prendre tous les renseignements pour dire, pour prendre un géniteur. Il ne faut pas que une femelle et un mâle soient issus des mêmes parents. Là, vous faites une très mauvaise affaire. Donc, vous allez dans les administrations de l'agriculture, ils peuvent vous aider, et notamment des structures comme l'ISAV. Ils ont l'expérience. À l'époque, Orgaman, quand j'ai commencé, avait aussi sa ferme porcine. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est pour éviter les maladies, l'accès à la porcherie est protégé. Il faut prévoir un espace pour que toute personne venant de l'extérieur, vous ne savez pas le sort de quel élevage, doit tremper ses pieds pour se promener. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, il y a les végétables. Mais il y a aussi les minoteries qui produisent. Mais évidemment, ça demande un coût. Et enfin, quand vous faites une production, il faut savoir écouler. Donc, généralement, la viande de porc, ici, elle est très prisée. Mais elle est aussi un peu chère. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter. À ce moment-là, il faudrait, quand vous avez des porcs qui ont un certain âge, il faut trouver une solution pour la conversion. C'est là où on passe à la charcuterie et à d'autres. Bon, j'ai peut-être déjà été long, mais ce sont les éléments qui peuvent aider. Alors, je recommande aux personnes qui veulent lire, s'ils ne peuvent pas lire, trouver l'ingénieur là, comme il est là, et consulter pour des conseils adaptés à la circonstance. C'est Papa Yansin Zogolo. Je suis un ancien fermier.
Merci beaucoup, Papa Yansin. Renseignement, documentation, où se faire accompagner, réglementation aussi, et prévention contre les maladies, alimentation et production. pour écouler la viande, s'il faut résumer un peu l'intervention de Papa Hyacinthe.
Oui, oui, Papa Hyacinthe a vraiment raison. C'est... Bon, il a confirmé qu'il a été un éleveur. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas dit faux. Il y a de ces problèmes-là que nous rencontrons par rapport à la prophylaxie ou aux mesures sanitaires.
Surtout la réglementation, oui. Être informé, qu'est-ce que dit la loi,
généralement.
Dit... Normalement, quand vous commencez, oui, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a un document qui se donne, ou soit à la commune, au ministère, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous donne?
Oui.
On donne aux éleveurs, ou il faut vous réveiller le matin, vous commencez?
Non, généralement, il y a des documents qu'on donne aux éleveurs.
Mmh. On vous identifie comme éleveur.
On nous identifie comme éleveur.
Et il y a des inspecteurs qui viennent vérifier... Qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites?
Bien sûr que oui, mais généralement, la plupart de ces gens-là ne les font pas. Ils dorment comme ça, ils se réveillent, ils entendent que non, l'élevage de porc ramène beaucoup d'argent et puis ils s'élancent. Quand il va s'élancer, après 5-6 mois, il y a une maladie qui va l'attaquer, tous les porcs sont morts. Il dira que non, l'élevage de porc n'est pas rentable, voilà, 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 voilà. Il ne s'est pas informé, il s'est lancé de lui-même. Il ne sait pas quels sont
les. Il n'est pas accompagné par un expert.
Et généralement, à Kinshasa ou au Congo, les gens ne veulent pas chercher l'apport des experts pour être accompagnés dans ces différentes activités.
Et, comme
et vous allez dire après que non, l'entrepreneuriat est difficile, l'entrepreneuriat est ceci et cela. Non, vous n'avez pas suffisamment d'informations pour se lancer dans tel ou tel domaine. Et après, quand vous échouez, c'est un problème.
Voilà, c'est un problème. Bonjour ma radio, une question à... En quoi peut être transformée la viande des porcs en parlant de la transformation industrielle où la viande est toujours consommée brute? Est-ce qu'on peut transformer la viande?
Ça s'est fait
la,
déjà.
La question, merci. Donc la question est de Jacques Boutanda depuis le Lubumbashi.
Ok. Bon, la transformation de la viande de porc s'est fait déjà. Généralement, la plupart des viandes que nous mangeons ou des boudins ou des saucisses que nous mangeons, c'est en base de porc. Et quand on fait la transformation, c'est encore une valeur ajoutée. Ça fait partie d'ailleurs de mon travail de fin d'études.
Oui.
La rentabilité et l'élevage porcine depuis la naissance jusqu'à la mise en commercialisation dans des étables ou dans des alimentations.
Voilà, merci beaucoup. Rapidement, bonjour ma radio. Je suis avec beaucoup d'intérêt l'ingénieur Massoudi. Vu les problèmes courants sur les plans sanitaires dans l'élevage porcin, j'aimerais qu'il puisse nous informer sur l'efficacité de la question liée à l'assurance porcine sur terrain et surtout si les porchers souscrivent facilement à cette assurance. C'est l'ingénieur Moukouba qui vous écrit.
Ah, ok.
C'est la question à un ingénieur, oui. Oh, un ingénieur à un ingénieur. Allez-y.
D'accord. Généralement, la plupart de ces éleveurs ou des porchers ne souscrivent pas d'assurance et agricole.
Mais il y a l'assurance.
Oui, l'assurance existe. L'assurance agricole existe pour protéger les différents élevages ou bien les différentes activités agricoles.
Voilà. Alors...
Mais je conseillerais également aux gens qui veulent s'élancer. Ça, c'est pour se protéger soi-même. On ne sait pas d'où peut venir la maladie, même si vous assurez votre prophylaxie, même si vous assurez votre capacité sanitaire dans votre porcherie, la maladie peut subvenir.
Oui,
c'est d'une manière naturelle.
Vaut
mieux prévenir que guérir.
Voilà. Alors, on va écouter Papa Hyacinthe.
Permettez-moi de revenir pour spécifier que j'avais un assistant vétérinaire permanent dans la ferme. Et j'avais passé un contrat avec un médecin vétérinaire qui visitait la ferme deux fois par mois, tous les 15 jours. C'était très important.
Voilà, c'est toujours important d'avoir, quand vous vous lancez, surtout si vous êtes néophyte, d'avoir toujours une expertise dans les domaines.
Oui, oui, c'est toujours très, très important d'avoir une expertise dans les domaines.
Bon. Ou du domaine.
Ou du domaine, en fait.
Et d'une manière permanente.
Oui, très bien. Alors, on est arrivé à la fin. Un dernier conseil, un dernier mot pour booster tous ces jeunes qui, au lieu de se lancer dans l'élevage, on tombe un peu sous les charmes de notre 14, notre 15 qui coûte 1000 ou 4000 balles rapidement.
Bon, je conseillerais aux jeunes comme moi. Je suis un jeune, je suis dans l'élevage pour ça. Bien sûr qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais après, ça rapporte, ça peut vous rapporter 5, 15, 6, 15 après à un certain moment donné.
Oui.
Parce que c'est un investissement à moyen terme. Ce n'est pas un investissement à long terme. Mes jeunes, mes amis, Donc, c'est un investissement à moyen terme. Les 1 500 $ que vous pouvez dépenser pour acheter un 15, vous pouvez vous sacrifier à vous lancer dans l'élevage pour ça. Et après, je crois bien, après une année, vous pouvez avoir 2, 3, 15. Tout très en bien. Suivant tous les conseils possibles pour réussir cet élevage-là.
Voilà, alors pour ces conseils, on va rappeler les numéros de contact.
Nous allons donner un numéro de contact. Vous êtes jeune, vous voulez investir, entreprendre dans l'élevage de porcs. Alors contactez-nous, nous allons vous intégrer dans le groupe. L'ingénieur est déjà dans le groupe. 082 00 13 340. 082 00 13 340. Vous contactez le coach Gabriel Lomengo. Je vais vous intégrer dans le groupe. Et l'ingénieur est déjà là. Nous allons continuer les débats et nous allons vous aider. Merci.
Merci beaucoup, le coach mentor international Gabriel Lomengo, pour votre passage. Merci également à l'ingénieur Massoudi qui nous a qui nous a rejoint pour nous parler donc de l'élevage de poxins. Une opportunité rentable pour entreprendre. Merci à Gina et on se retrouve le lundi prochain avec la même émission à la même heure.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.